Bonsoir, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette seconde fois dans le cadre de ce cours d'iconologie orthodoxe que nous avons commencé récemment. Et je dois immédiatement vous demander pardon pour un fait qui n'est pas vraiment un détail, mais auquel je ne peux rien. Il se trouve que depuis quelques semaines, je suis dans un processus de déménagement, et c'est dans ce cadre que mes diapos sont devenus inaccessibles pour moi en ce moment. Alors, c'est un peu la raison pourquoi j'ai cherché un sujet où on peut, avec bien sûr un petit effort, éventuellement se passer d'illustrations. Je pense que nous aurons l'occasion de voir ces illustrations plus tard dans l'année, quand mes conditions de vie seront plus normales. Voilà, le sujet que je voulais aborder aujourd'hui concerne un fait qui est très important pour nous en tant que chrétiens orthodoxes, mais qui dépasse même les limites de l'Église orthodoxe, et nous allons voir pourquoi, puisqu'il s'agit de ce qu'on pourrait appeler la redécouverte de l'icône. Ça fait du bruit, c'est pour ça que je pose ma croix ici, pour que ne fasse pas trop de bruit contre la table. Donc, je disais, la redécouverte de l'icône dans l'Église orthodoxe. Nous verrons qu'il s'agit de la deuxième moitié du 19e siècle, et puis tout le 20e siècle fait partie de ces chapitres dans la théologie orthodoxe contemporaine. Mais il s'agit pas seulement de la redécouverte de l'icône par les membres de l'Église orthodoxe, il y a aussi une découverte de l'icône par l'Occident. Ça sera un peu ma deuxième partie, parce que, grâce à Dieu, peut-être à cause des ouvertures qui ont été créées dans l'art pictural par les pionniers de l'art moderne, il y a eu, un intérêt a commencé à se manifester à la peinture qu'on appelait, ces gens-là, ils appellent ça l'image paléochrétienne et byzantine. Et c'est pas faux, mais pour nous, il s'agit de l'image ecclésiale de l'icône orthodoxe et de son histoire. Et la sensibilité à l'icône est sans doute endettée envers les maîtres de la peinture moderne, parce que nous savons tous que pour les esthètes des derniers siècles, surtout en Occident, mais par l'influence de l'Occident aussi dans les pays orthodoxes, ils avaient pris goût à ce qu'on peut, d'une façon très générale, appeler l'art d'Occident, qui a été pendant des longs siècles aussi essentiellement chrétien, mais d'une autre façon. Alors, je crois qu'il est temps de finir mon introduction, et je veux donc vous parler de la découverte de l'icône dans le cadre de l'Église orthodoxe, la redécouverte de l'icône et la découverte par l'Occident de cette même icône. Nous assistons à la fin de la Renaissance. L'image même de l'homme est tout obscurcie. L'humanisme n'a pas fortifié, il a débilité l'homme. Tel est le dénouement paradoxal de l'histoire moderne, constaté Nikolaï Berdiaïev, le fameux philosophe russe du début du XXe siècle. Donc, constaté Nikolaï Berdiaïev vers 1924. Et Olivier Clément, que vous avez peut-être connu, décrit notre monde comme un bas empire planétaire. C'est une formule très, très bonne. Un bas empire planétaire dans lequel nous affrontons l'impossible synthèse et l'hiver de la beauté qui le font penser à une théologie négative qui ne dépassera pas la négation, à une descente en enfer que la résurrection ne suivra pas. Et voilà que dans ce monde déchiré et déchirant entre une image venue d'ailleurs. Tant du point de vue artistique que du point de vue spirituel, l'icône est l'une des plus grandes découvertes du XXe siècle, affirme avec sérénité le père du renouveau contemporain de l'iconographie orthodoxe et de la théologie de l'icône, Leonid Alexandrovitch Ouspensky, mon maître. Et nous avons toutes les raisons, dit-il, de croire avec lui que le long processus de cette découverte progressive, qui commença, comme nous le verrons encore en Russie, bien avant la Révolution, devait providentiellement déboucher sur notre époque. Le destin de l'icône russe paraît paradoxal à bien des égards. Après des siècles d'oubli et de dédain de l'époque dite synodale, l'époque synodale de l'Église russe, elle fut soumise en Union soviétique pendant des longues décades à une destruction qui se voulait systématique. Mais entre-temps, la nouvelle de sa découverte s'était répandue bien au-delà des limites de l'orthodoxie historique et l'icône se mit à gagner un monde dont l'hétérodoxie et la culture avaient jadis conduit à son oubli dans l'orthodoxie même. En effet, un art qui était, il y a encore une cinquantaine d'années à peu près, le domaine réservé de quelques spécialistes byzantinologues ou slavisants au goût considéré comme plutôt exotique, un art qui depuis la Renaissance italienne fut regardé en Occident comme le prototype de tout ce qui était primitif, stérile, formaliste et rétrograde en peinture, acquiert aujourd'hui une vogue quasiment universelle. Des musées spéciaux, des expositions itinérantes, des ventes aux enchères qui réunissent les grands antiquaires internationaux à Londres, New York, Paris et Munich, des livres d'art de tout prix et format, des scandales de contrebande par utilisation des valises diplomatiques, des thèses de doctorat en histoire de l'art et en théologie. L'apparition des icônes dans beaucoup d'églises non orthodoxes, tout démontre à l'évidence que l'icône a conquis une place de première importance, aussi bien sur le marché international de l'art que dans la réflexion sur l'histoire et le destin de l'art, et plus particulièrement de l'art sacré chrétien. Mais il y a plus, ce que Ouspensky appelle le long processus de la pénétration progressive du sens spirituel de l'icône semble maintenant engagé de façon irréversible, aussi bien en Russie, en Roumanie, dans tous les pays orthodoxes, où l'immense travail accompli par les restaurateurs ressuscite l'icône ancienne, qu'en Occident qui retrouve à travers toutes ses cassures et déchirement le visage trop longtemps obscurci de Dieu devenu homme. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. L'image spécifiquement chrétienne qu'est l'icône se fonde sur le fait que Dieu est devenu vraiment homme, sur le fait qu'en Christ, lui-même image du Père, il n'y a pas seulement communion, mais véritablement union des deux, et qu'en l'Église, cette union même nous devient accessible et nous est communiquée de la manière la plus réelle et la plus existentielle à la fois. D'ailleurs, celui qui cherche à s'initier au sens et au langage des saintes icônes se rend très vite compte qu'il est impossible de comprendre leur message si on ne les situe pas d'abord dans leur milieu naturel, qui est celui, comme nous le savons tous, de la liturgie de l'Église orthodoxe. La popularité grandissante des icônes et leur apparition non seulement dans beaucoup d'églises catholiques, mais jusque dans les temples protestants, connus pour leur sobriété presque iconoclaste, montre bien qu'une fois ce message bien saisi, les icônes peuvent aussi servir, entre guillemets, chez nos frères séparés. Ceux-ci ressentent de plus en plus souvent que l'Église est appelée non seulement à prêcher la parole, mais aussi à montrer qu'elle restaure, l'image de Dieu dans l'homme, et qu'à l'instar de l'image de Dieu incarné, cette réalisation peut et doit être représentée et démontrée par un art spécifiquement chrétien et liturgique. En effet, les icônes sont des images liturgiques, c'est-à-dire que chaque icône représente soit une fête du calendrier chrétien, soit un saint que lui aussi a son jour de fête dans ce calendrier. Une telle image fait partie intégrante de la célébration liturgique, car ce que les textes sacrés et les hymnes expriment en paroles, les images saintes le montrent par les lignes et des couleurs. Ainsi, en parlant d'une manière générale, on pourrait dire que le contenu des icônes est celui de l'ensemble de la célébration liturgique qui peut être résumé en trois mots. L'anticipation du ciel sur la terre. Cette anticipation qui se réalise dans le salut des hommes est, selon les chrétiens orthodoxes, la mission même de l'Église dans le monde. Autrement dit, l'icône représente toujours la présence divine dans la création. Il faut mettre ça en lettres gras. La présence divine dans la création. Soit par le portrait du Christ ou d'un saint, soit par un événement de l'histoire sainte qui est célébré par une fête liturgique également. Cependant, cette présence divine dans la création implique un changement, une transformation par sanctification, et n'ayons pas peur du mot, une transfiguration de cette création jusque dans sa matière. C'est justement de cette transfiguration qui est l'anticipation réelle du royaume céleste dans notre monde que parlent toutes les icônes. C'est leur message essentiel, ce qui les distingue de toute autre peinture. Car, nous le savons, ces lignes et ces couleurs ont un langage bien précis, celui qui constitue le style unique et spécifique des icônes, de toute évidence déterminé par le message qu'ils transmettent. Par conséquent, toute véritable icône traduit le plus clairement possible cet état transfiguré de la création, aussi bien dans les personnes que dans leur entourage. Tout ce qui est dans l'icône exprime ça, tout ce qui est représenté. L'icône, pourrait-on dire, est l'évangile rendu visible par les transformations que la sainteté opère dans le monde. Oui, l'icône ne représente plus seulement une valeur artistique ou culturelle. Elle n'est plus perçue comme appartenant au passé. Elle renaît dans le présent comme une réponse pacifiante aux interrogations anxieuses de l'homme moderne, comme une théologie en images. Muette pendant des siècles, l'icône a commencé à nous parler le même langage qu'elle parlait à nos lointains ancêtres, écrivait le prince Trubetskoy en 1915. Oui, elle avait commencé à parler le même langage, mais le déchiffrement définitif et surtout le réapprentissage par les peintres, par des peintres capables de s'exprimer de nouveau dans ce langage qui avait été freiné par la guerre et ne s'achevèrent qu'après la Révolution, et vu les événements en Russie, d'abord dans l'émigration, et là surtout en France et à Paris. Ainsi eut lieu une véritable renaissance de l'icône orthodoxe sur le plan artistique aussi bien que théologique, parce que ça va normalement ensemble. Et tout ça eut lieu dans cette petite Russie ou Roumanie, hors frontière, que fut pour beaucoup le Paris d'entre les deux guerres. Comme l'ont si brillamment démontré une fois de plus les événements récents concernant l'intérêt pour les icônes, on peut dire que Paris est devenu un endroit privilégié de fécond échange entre les cultures nationales concernées, c'est-à-dire donc la culture de peinture et de spiritualité occidentale et l'orthodoxie. Et c'est aussi devenu en fait un haut lieu de la rencontre des traditions spirituelles qui s'étaient trop longtemps ignorées. Et puisque dans l'orthodoxie, le destin de l'icône coïncide toujours avec celui de l'Église, la découverte de l'icône par l'Occident se trouvait tout naturellement inscrite dans la logique de cette rencontre. Le but de ma brève communication est de poser quelques jalons pour l'histoire de cette découverte. Mais d'abord, il faut dire quelques mots sur le mouvement qui a rendu cette découverte possible, c'est-à-dire le renouveau de l'icône orthodoxe dans les pays orthodoxes, bien avant, disons, la Première Guerre mondiale et la Révolution en Russie. Lorsque Goethe confesse les errements de déception de l'esprit humaniste en proclamant par la bouche de son Faust philosophie, hélas, jurisprudence, médecine, et toi aussi, triste théologie. Ça, c'était la scolastique. Je vous ai donc étudié à fond, avec ardeur et patience. Et me voici maintenant tout aussi sage que devant. C'est une citation du Faust. Il aurait pu ajouter qu'il avait même voulu étudier les icônes, Goethe, mais que cela s'était avéré impossible. C'est tout à fait intéressant, très très typique. C'était avéré impossible faute de pouvoir se documenter. Sans doute fut-il le plus illustre précurseur de l'actuel intérêt pour les icônes en Occident, mais l'épisode reste symbolique surtout pour le fait qu'aucune de ses tentatives pour s'informer sur l'icône n'aboutit. En effet, ayant vu à la toute neuve église russe de Weimar, en Saxonie quelque part, des icônes peintes par les iconographes de Palich, Goethe fut frappé par les traditions byzantines. De Palich, c'est un de ces villages dans le nord de la Russie où les vieux croyants, mais pas seulement, mais aussi les orthodoxes, ont continué la peinture traditionnelle des icônes. Et donc, il y a villages, on peut dire, où l'icône a survécu par une sorte de miracle. Mais elle s'était beaucoup refermée sur elle-même. Mais quand on a redécouvert, quand la société cultivée a redécouvert ses trésors, c'est là où le progrès a repris. Donc, Goethe fut frappé par les traditions byzantines conservées par des peintres contemporains et fit demander des renseignements concernant cette peinture en Russie. Mais personne ne put lui en fournir, ni les cercles proches de la cour impériale, bon, là-bas tout était occidentalisé, n'est-ce pas? ça c'est à la cour. Ce qui est pire, c'est que c'était aussi occidental dans les églises. On a regardé la rue d'Aru, par exemple. Déjà, c'est mieux que beaucoup d'autres choses. La rue d'Aru est un monument qui marque une première tentative de retour aux sources. Pour ça, il y avait un peu d'or sur le mur. Alors, mais personne ne peut lui fournir à Goethe, n'est-ce pas, des renseignements, ni les cercles proches de la cour impériale, ni les autorités locales, ni l'historien Karamzin, le grand historien Karamzin, ni même l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg. Pourquoi l'Académie des Beaux-Arts? Parce qu'il n'y avait là-bas que des Français, des Allemands, des Hollandais qui enseignaient leur propre peinture, mais qui n'avaient évidemment rien à voir avec l'icône. Dans un tel oubli était tombée l'icône orthodoxe dans la société cultivée en Russie autour de 1820, après plus d'un siècle d'occidentalisation forcée. D'un autre côté, depuis le début du siècle, un intérêt croissant pour le passé national s'était fait sentir de plus en plus clairement. C'est un peu aussi dans le mouvement du romantisme, n'est-ce pas, du début du XIXe siècle. Donc se faisait sentir de plus en plus clairement, et parmi les études consacrées à tout ce qui est ancien, on commence à parler aussi des icônes. L'imitation servile de l'Occident ne satisfait plus tout le monde. Ainsi Khamiakov, Alexis Khamiakov, n'est-ce pas, le slavophile bien connu, écrit en 1846: nous commençons à nous rendre compte de l'impuissance et de la stérilité de toute imitation, qu'elle soit manifestement servile ou libre, c'est-à-dire éclectique. Ça, c'est Dixit Khamiakov. Entre-temps, le nombre d'ouvrages traitant des icônes anciennes s'accroît régulièrement, et la seconde moitié du 19e siècle voit naître une science de l'art russe ancien. Cette période est marquée par l'apparition de toute une série d'ouvrages de valeur de l'école dite iconographique. Toutefois, l'icône n'y est pas vraiment considérée comme une œuvre d'art, mais y est étudiée du point de vue archéologique, on pourrait presque dire folklorique, populaire, en voyant son intérêt principal dans la conservation de la tradition dans les sujets représentés. Ainsi, Filimonov, un de ces savants qui se penchait sur l'icône à cette époque, pouvait écrire dans son étude sur Simon Ushakov est un peintre d'icônes, mais très très décadent. À Filimonov, à l'époque, il paraissait quand même très proche des icônes, ce qui était malheureusement un malentendu. Mais voilà, donc, vous avez vu les icônes de Ushakov, c'est ces icônes nestoriennes, n'est-ce pas, un Christ très, plus que exclusivement humain, et avec quelques symboles qui sont là pour suggérer sa divinité, mais son corps n'est pas transfiguré, son regard n'est pas lumineux. Donc, Filimonov écrit en 1873: s'il est étrange de présenter les ouvrages d'art sacré russe comme des œuvres d'art, ça c'est étrange, il est encore plus injuste de les rabaisser au plus bas niveau de l'artisanat. Il a d'excellentes intentions, ce monsieur. Choisissons la voie médiane. Nous devons y voir des œuvres artistiques artisanales et reconnaître notre iconographie comme un métier d'art. Sapochnik. Как сапожник по-французски?
Кордонье.
Кордонье. Артизанат. Кордонье. Comme tout art qui n'est pas dégagé du service de l'Église. Dégagé du service de l'Église. Voilà, русская интеллигенция. L'intelligence russe. Voilà.
vous rendez compte où on en était et d'où on vient.
Ça laisse quand même bouche bée. Alors, nous devons voir ces œuvres comme artisanales et reconnaître notre iconographie comme un métier d'art, comme tout art qui n'est pas dégagé du service de l'Église. Je pense que c'est ça les mots les plus frappants dans ce texte, parce que nous savons entre-temps que les icônes n'ont pas... les icônes ont une fonction primordiale dans la vie de l'Église, et donc ils ne sont pas asservis. Il ne s'agissait pas de libérer la peinture d'icônes d'une oppression ecclésiale. C'est plutôt le contraire. Il fallait libérer la peinture d'icônes des tendances occidentales qui étaient imposées par en haut, par le synode, par tout ce qui vient en fait de Pierre Ier. Alors, comme tout art qui n'est pas dégagé du service d'Église et ne s'est pas élevé au niveau d'une création entièrement libre, parce que, évidemment, ce qui compte, c'est la liberté, n'est-ce pas? Bon. Donc, c'est pas... Là, on n'est pas dans la Révolution française, n'est-ce pas? Là, on est dans la Russie du 19e siècle. Et un gars qui parle de l'Église et... Sans souci, évidemment, idéal, c'est la liberté mal comprise. Parce qu'il y a une liberté, d'abord dans l'Église, dans la musique et dans la peinture, évidemment. Seulement, cette liberté-là, elle n'a rien à voir avec l'imitation de l'art occidental qui était imposé à cette époque et qui était considéré comme la liberté supérieure. Bref. Le peintre Palianov, invité en 1888 par Vaznetsov à participer à la décoration de la nouvelle cathédrale Saint-Vladimir à Kiev, c'est une horreur. Elle a survécu à la Deuxième Guerre mondiale, c'est peut-être une bonne chose, mais les peintures sont absolument atroces. Répondit par un refus qu'il motiva ainsi. Alors c'est Palianov, un peintre russe en vogue à l'époque, de deuxième moitié du 19e siècle, très bon, faisait des très beaux naturellement, des paysages, de tout ce que vous voulez. Alors donc, on l'a invité pour venir à Kiev pour participer à la décoration de cette nouvelle cathédrale. Et lui, il dit non, mais si je veux pas, et il explique pourquoi. Les dogmes de l'orthodoxie sont dépassés et appartiennent maintenant au domaine de la scolastique. Excusez du peu. Nous n'en avons plus besoin. Paf. Quant à Vaznetsov lui-même, voici comment au soir de sa vie, il appréciait son travail à la cathédrale Saint-Vladimir de Kiev, Vaznetsov. À l'époque, il voulait inviter Palianov, et puis il a lui-même travaillé là-bas, et il faisait ce qu'il pouvait, mais à la fin de sa vie, il avait quand même progressé. Et voilà, ils disent, en 1925, il vivait déjà à Prague dans l'émigration, il parle à un groupe d'amis. Vaznetsov s'enthousiasmait pour les fresques anciennes du monastère de Theraponte à côté de Novgorod, de l'église du Sauveur à Neredice et d'autres. C'est des églises anciennes, avec des fresques merveilleuses. Quelqu'un remarqua alors, mais vos icônes et vos fresques, ce sont des chefs-d'œuvre. C'est là une profonde compréhension de l'esprit, de la religion, dont l'interprétation des peintres russes, on peut dire même de l'Église russe tout entière. Oh non, protesta Vaznetsov avec ardeur. On pouvait parler ainsi tant que l'icône russe ancienne n'était pas encore découverte. Moi aussi, il me semblait, dans mon orgueil insensé, que moi seul, avait compris l'esprit de la peinture ancienne. Et peut-être aussi, mais un peu différemment, Niesterov. C'était un copain, lui. Mais lorsqu'on a restauré la peinture ancienne, ses fresques dans les monastères, lorsqu'on a retrouvé l'icône d'avant Nikon, avant le patriarche Nikon, n'est-ce pas, qui a eu le... C'était Nikon était patriarche qui avait affaire au schisme des vieux croyants, les vieux croyants qui sont restés attachés à la peinture d'icônes, il faut le dire. Donc, lorsqu'on a retrouvé l'icône d'avant le patriarche Nikon, et celle plus ancienne encore, un monde entièrement nouveau apparut. Le monde merveilleux d'une inspiration profonde et de connaissance des lois de la nature. Une compréhension étonnante apparut de l'interaction des couleurs et de la technique picturale. Les peintres anciens, liés par la tradition et par certaines formes, n'ont-ils pas créé une peinture authentique, véritable, au sens le plus profond de sa conception, c'est-à-dire un jeu de couleurs? Ce n'étaient pas des dessinateurs comme nous le sommes maintenant. C'étaient des vrais créateurs, des vrais peintres. La Russie ne doit pas s'enorgueillir de sa peinture contemporaine. C'est-à-dire 19e siècle, ça, elle a vraiment raison. Alors, c'est-à-dire celle d'après Pierre Ier. Car nous ne sommes en général que des imitateurs. Originaux, des fois, il est vrai, à notre manière propre. Mais quand même, nous nous traînons derrière l'Europe. À quoi bon le cacher? Mais nous devons être fiers de notre iconographie ancienne, de notre peinture ancienne. Là, personne ne nous surpasse. Je croyais moi-même avoir pénétré l'esprit de l'icône, avoir exprimé le monde intérieur du peintre de jadis. Avoir maîtrisé, ceci par mon orgueil, la technique des temps anciens. Mais voilà que je me trompais profondément. L'esprit de l'icône ancienne s'est avéré beaucoup plus élevé que je ne pensais. Le monde intérieur de la peinture des temps anciens était bien plus riche, spirituellement parlant, que l'esprit de notre temps, que ce soit le mien personnellement ou celui de Niesterov, où nous sommes, et nous sommes loin de leurs techniques, de leurs effets comme coloristes. En l'année 1900, un comité de protection de l'iconographie orthodoxe fut créé en Russie qui reçut l'approbation de l'empereur lui-même. Le comité engagea notamment une lutte énergique et persévérante contre la production mécanique des images religieuses et prenait en charge l'édition d'ouvrages souvent monumentaux comme celui de Kandakov sur l'icône russe. Là, on touche un problème qui n'est pas résolu jusqu'à ce temps, même s'il s'est empiré. Là, toutes les cartes postales, les reproductions des icônes, il y a même des gens qui demandent aux prêtres de venir et d'asperger des reproductions mécaniques sur papier, sur carton, sur tout ce qu'on veut. Et les braves gens, dans ce cas-là, pensent qu'une fois bénis, aspergés par le prêtre, des images d'origine mécanique puissent devenir des icônes. Ce qui est un leurre. Il faut comprendre que chaque icône, elle est peinte une fois. On peut faire des photos pour se rappeler. Mais les reproductions, toutes reproductions, ne sont, à vrai dire, ne sont pas admises, ne devraient pas être admises. par les clergés, et puis l'Église est contre de toute façon. Parce que c'est exactement la même chose si à la place de la chorale, voilà, il y a un service à côté, on entend la chorale chanter. Imaginez juste un instant qu'à la place de la chorale, on a un tourne-disque. Et on a mis un disque, et le tourne-disque joue, et les gens dans l'église, ils... C'est pas vrai. Et ça, tout le monde le comprend. Pas tout le monde, mais quand même, la plupart des gens sont assez intelligents pour le comprendre. C'est intelligent ou habitué de réfléchir là-dessus. Mais pour les icônes, il y a beaucoup de gens qui disent, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais tu te rends pas compte, me regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Les iconographes sont sous-employés chez nous. Parce que d'abord, il n'y a pas assez d'iconographes potables. Il y en a qui sont pas mal, il y en a qui sont excellents, il y en a beaucoup qui sont un peu au-dessous de la moyenne, mais qui sont les plus batailleurs, évidemment. Mais tout ça doit nous faire réfléchir. Parce que c'est la responsabilité de tout chrétien orthodoxe normalement constitué de devenir conscient que c'est comme, excusez-moi, notre vie intérieure, notre, ce que nous appelons de fois la vie spirituelle, il faut s'en occuper. Et si on veut avoir des belles icônes, il faut que d'abord les gens qui ont des très bonnes intentions et qui se mettent à peindre des icônes devraient être instruits sur ce qui est le sens même et l'essence des icônes, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, comme on a dit au début, là, représenter le monde, la sainteté, la présence du Saint-Esprit dans ce monde et comme conséquence de son action, la transfiguration des êtres humains et de la matière en général, on pourrait dire. Donc, nous sommes devant une situation qui reste problématique, et évidemment il y a des gens qui tout simplement ne savent pas, et peut-être c'est pas leur faute, n'est-ce pas, mais je m'adresse là à tous ceux qui entendent ma petite causerie. Il faut insister auprès des prêtres, auprès des fidèles, auprès de tout le monde, de tous ceux qui sont dans notre église, qu'il faut lutter contre l'utilisation des images produites mécaniquement à l'église, dans la liturgie et même à la maison pour prier devant. Parce que il faut que ça soit chaque prière est toujours unique. N'est-ce pas ? Une icône peut être peinte seulement en prière. C'est très simple. L'icône est peinte en prière. Mais cette prière, elle est là pendant la création d'une icône donnée. Et faire un film du peintre qui est en train de peindre et projeter ce film après pour dire que voilà, ici nous avons une reproduction de cette icône, ça ne marche pas. Il n'y a pas de... C'est une imposture, l'utilisation des icônes mécaniquement reproduites. Il faut tout simplement le dire. Je ne suis pas un fanatique, je suis pas... Mais il faut comprendre, nous avons une responsabilité. Et bien sûr, mes chers frères, mes confrères, prêtres, n'est-ce pas, qui par souci, par... pastoral, n'est-ce pas, dans leur bonté infinie, bénissent à peu près tout ce que les grands-mères vont leur apporter, et pas seulement les grands-mères, hein, et qui, des fois, manquent tout simplement, je ne vais pas dire du courage, mais de la conscience pastorale, que eux, c'est leur rôle de dire, mais ma chère grand-mère, ça, c'est pas une icône. Hein? C'est pas vrai. Si tu veux, je vais te commander une icône pour que tu puisses prier chez toi, mais devant une vraie icône peinte. Voilà un domaine de notre pastoral qui, pour le moment, est un peu délaissé, pour parler, n'est-ce pas, par... un peu délaissé. Et c'est grave, parce que, bon, maintenant tout, de toute façon, tout passe par email et par le computer. Et tout est... comment ça s'appelle le mot, je ne sais plus, ce système, c'est pas grave. Là, enfin, comment...
L'ordinateur.
Hein? Oh, oui, l'ordinateur et toutes ces choses-là. Exactement. Tout est, comment est-ce qu'on dit?
Numérique.
Numérique, voilà. Digital, numérique, tout le bazar. Alors, maintenant, n'est-ce pas, bientôt, nous serons dans la situation suivante. Nous allons, par ordinateur, par email, envoyer une commande d'une icône à quelle officine quelconque qui va nous renvoyer une icône imprimé selon la méthode, comment vous dites,
scanner,
machin, oui, scanner, etc. Non, lithographie, oh, c'était, ça c'est lithographie, c'était une antiquité maintenant, la lithographie. Non, 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 comment est-ce le mot, comment dire, pour, hein? Numérique, voilà, excusez-moi, numérique, oui, hein? Les icônes numériques. Et voilà où on y est presque. L'autre jour, quelqu'un est venu, mais je regarde. Je dis oui. Oh, mais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, j'ai mis sur le mur chez moi.
Ah oui, si c'est full HD, je crois pas.
Mais vous, moi, je veux. Bon, cher ami, hein, moi, je blague pas. Hein. Non, non, et vous, si vous faites de l'humour, c'est pas le moment. Hein? Ok? C'est vraiment pas le moment, parce que sinon ça n'a pas de sens. Je sais que beaucoup me disent que c'est moi qui est fou. Hein? Mais ça, c'est pas grave. Hein? Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est très simple. La reproduction des images liturgiques, la reproduction mécanique ou n'importe quel processus qui n'est pas de la peinture,
c'est ce que je voudrais vous dire.
Oui.
Tout le monde, il cherche la Full HD, la image propre, là, tout ça. C'est pour ça qu'ils disent toujours, bon, j'ai ces tableaux, moi je les pose sur le mur. C'est pour ça, c'est ce que moi je voudrais vous dire.
Ah bon, excusez-moi, je vous ai mal compris. Non. En fait, nous sommes tout à fait d'accord. Ah. Voilà, ben, je suis très très consolé. Alors, donc, pas d'icône mécanique.
Non,
non. C'est pas possible. Hein? Comme, je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, j'ai comparé ça avec le disque pendant la liturgie. Les musiques, maintenant il n'y a même plus de disque, mais ça se fait autrement, mais enfin bref. Non. Le gramophone à la belle époque, n'est-ce pas? Bon. C'est ça, il y a encore des gens qui comprennent que c'est quand même, ça ne se fait pas vraiment. Ce qu'il faut que les gens comprennent, qu'une icône imprimée est exactement à la même valeur qu'un disque pendant la liturgie. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Voilà. Alors, en l'année 1900, un comité, oui, j'ai déjà lu ça, un comité, je vais relire parce qu'on s'est un peu éloigné. Un comité de protection de l'iconographie fut créé et reçut l'approbation de l'empereur lui-même. C'était déjà Nicolas II. Ce comité engagea notamment une lutte énergique et persévérante contre la production mécanique des images. Voilà, c'est pour ça qu'on a commencé à parler de ça. Et prenait en charge l'édition d'ouvrages souvent monumentaux comme celui de Kandakov sur l'icône russe. Son activité éveilla des échos nombreux et variés. À divers endroits, on se mit à construire des églises d'architecture traditionnelle. Oui, parce qu'on était aussi, il y avait du baroque, il y avait du classicisme, il y avait tout, hein, voilà, au 19e siècle en Russie. Voilà. À divers endroits, on s'est mis à construire des églises d'architecture traditionnelle avec une décoration murale canonique et des iconostases composées d'icônes anciennes. D'icônes anciennes. L'ouverture en 1905 des églises des vieux croyants, la formation de collections privées, la restauration d'icônes en nombre toujours croissant, tout cela amène une partie de la société russe à une réévaluation totale de l'icône. Quant au cercle plus vaste de cette société, pour eux, l'exposition d'icônes en 1913 fut une véritable révélation. C'est comme si un voile était brusquement tombé des yeux des personnes qui visitèrent cette exposition, se rappelait plus tard l'historien de l'art Lazarev. Les années de la Grande Guerre furent surtout marquées par la publication de deux célèbres études du prince Troubetskoy et Evgeny Nikolaïtch, «Умозрение в красках», c'est-à-dire, c'est traduit en général «théologie en couleur», et un autre article, «Deux mondes dans l'iconographie ancienne», et en 1918, tout de suite après la guerre, il publia une troisième étude dans un des derniers numéros de la célèbre revue «La pensée russe», qu'il intitula La Russie dans son icône. Les premières années de l'émigration furent beaucoup un temps de longues pérégrations, mais bientôt des communautés importantes et stables se forment dans diverses capitales d'Occident, où reprend une florissante vue culturelle, artistique et souvent scientifique. Ainsi, l'année 1925 voit la création de deux nouveaux centres d'études de l'icône russe à Prague, Kandakov ouvre l'institut qui portera son nom et qui continuera à publier en russe les plus importants travaux sur l'art byzantin jusqu'à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. La même année fut créée à Paris l'association Icône qui se propose d'étudier l'icône aussi bien dans le cadre général de l'histoire de l'art que du point de vue de son contenu théologique et qui s'efforce de maintenir et de transmettre la pratique de l'ancienne technique de la peinture d'icônes. En 25, je voulais justement, entre parenthèses, dire que c'est aussi l'année de l'ouverture de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, qui vit encore, paraît-il. En 1931, le père Serge Bulgakov, professeur de dogmatique et doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, publia un essai dogmatique intitulé « L'icône et sa vénération ». Alors là, il y a quelques réserves à émettre. L'importance de cette étude, qui fut la première approche proprement théologique du sujet à l'époque moderne, se trouve relativisé par la, je cite, solution sociologique à l'antinomie de l'icône proposée par son auteur. Bon, c'est pas maintenant le moment d'entrer dans ce sujet, mais enfin, le père Serge était un penseur très original, très créatif, et c'est lui, comme vous savez, qui est théologien le plus important de ce tendance sociologique dans la théologie orthodoxe de la fin du 19e, début du 20e siècle, première moitié du 20e siècle, qui a des aspects très problématiques que je ne peux pas prêter maintenant. Ce qu'il y a de plus remarquable dans ce livre, c'est que le père Serge a ressenti l'importance de l'icône dans l'Église, de l'image. Ces explications qu'il a données, et qui sont sociologiques, je pense qu'on peut s'en passer. Mais le fait même qu'il a dit que l'icône concerne le cœur de notre foi, ça a été évidemment très important que quelqu'un le dise enfin. Une fille spirituelle du Père Serge, la sœur Jeanne Reichlinger, membre de l'association Icône, fut le premier iconographe contemporain à se rapprocher de la gamme chromatique et la transparence des icônes anciennes et à développer un style personnel. Parce que c'est possible. Faut pas croire que c'est pas possible. Même elle, c'était un peu un cas aussi. Elle était évidemment, elle avait reçu une formation de peintre et elle a cheminé et elle est devenue authentiquement iconographe. Mais il y a quelque chose qu'elle n'a pas atteint, si vous voulez. Et je pense que, en fait, elle a été très précieuse parce qu'elle a ouvert plusieurs portes et plusieurs couloirs. Mais, et elle a, dans ce sens-là, peut-être contribué de façon décisive à ceux qui l'ont suivi. Et en disant cela, je pense évidemment à Leonid Uspensky lui-même et au père Grégoire Krug, qui sont, eux, au sens plein du terme, des iconographes, et qui sont restés et resteront des exemples qu'il vaut la peine, dont il vaut la peine de se reprocher le plus, parce que les deux, Uspensky et Krug, avaient aussi reçu une formation de peintre, artiste peintre, de beaux-arts. Mais ils ont creusé, comme on dit, et ils ont trouvé. Et aujourd'hui, pas loin d'ici, il y a une petite église dans une maison sur la même avenue, c'est Saint-Victor, la petite paroisse francophone de l'église russe. Rue de Crimée. Mais c'est bien sûr Sainte. Qu'est-ce que tu as dit? Sainte-Geneviève. Mais il y a un deuxième nom encore. Voilà, c'est ça, c'est le plus connu. Voilà, Notre-Dame des Affligés. Très bien. Et là, si vous avez un jour, là, c'est pas loin, allez-y regarder l'iconostase. Bon, c'est dans une maison d'habitation, c'est au rez-de-chaussée. Avant, il y avait un magasin là. Mais. Et puis l'iconostase est l'icône de la Mère de Dieu derrière l'autel, au fond de l'abside, si vous voulez. Normalement, ça doit vous couper le souffle. Voilà. Donc, en 1933, le président de l'association, Vladimir Pavlovitch Rebushinsky, qui était un vieux croyant, et lui, Léonide a tout appris chez lui, n'est-ce pas? Quand on lui apportait une icône, il a retourné d'abord, il a regardé le dos, et alors il voyait des tas de choses que personne d'autre ne voyait. Après, il a repris, et puis il dit oui, effectivement, etc. C'est pour dire que il avait, comme il était vieux croyant, donc il avait ça dans la peau, les icônes anciennes. Et il avait des Rebushinsky qui étaient des multimillionnaires avant la Révolution, des vieux croyants, des marchands, et ils avaient une collection d'icônes anciennes absolument fantastiques, qui se sont après retrouvées ces icônes dans les collections de la Tretiakovska Galerie, etc., etc. Mais c'était eux qui ont quand même l'immense mérite d'avoir sauvé un grand nombre d'icônes anciennes qui auraient pu périr tout simplement et qu'ils ont sauvé, on peut dire. et qui sont maintenant dans les meilleurs musées en Russie et qui ont facilité ces retrouvailles avec l'icône ancienne. Alors, donc, en 1933, le président Vladimir Pavlovitch Rybushinsky accueille chaleureusement deux jeunes peintres, le futur moine Grégoire Krug et Leonid Uspensky. Leur œuvre iconographique jouit aujourd'hui d'une notoriété mondiale. Depuis la fin de la dernière guerre, Leonid Uspensky dispense à Paris un enseignement régulier d'iconographie où il reçoit des élèves du monde entier. Alors, j'ai écrit ça quand il était encore en vie. Bon, parce que je dis il reçoit. Bon, il recevait. Son enseignement est à l'origine de multiples écoles nouvelles d'iconographie, parmi lesquelles les plus importantes se trouvent aujourd'hui en Finlande, en Égypte, auprès du patriarcat copte, en Angleterre, en Hollande et depuis peu en Amérique du Nord. Enfin, en 1980, sortit son livre « La théologie de l'icône », vous l'avez ? Bravo ! Aboutissement et somme de toutes ces recherches théologiques. À la fois ultime référence et source d'inspiration, ce livre ne vieillira pas, car il sera de plus en plus unanimement reconnu comme une expression de la tradition avec un T majuscule. Il ne peut être comparé qu'aux deux autres classiques de la théologie orthodoxe contemporaine, c'est-à-dire les voies de la théologie russe de Georges Flarovski et la théologie mystique de l'Église d'Orient de Vladimir Losky, tous les deux écrits d'ailleurs aussi à Paris, n'est-ce pas ? Voilà, un coquelicot. Voici pour l'itinéraire de l'icône de Russie en Occident. Il nous reste maintenant de retracer brièvement le mouvement inverse, c'est-à-dire le cheminement de l'Occident à la rencontre de l'icône. Une voie nouvelle, une voie qui permettrait de sortir du labyrinthe laissé par l'effondrement du monde de la Renaissance, une évacuation de l'éphémère, comme disait Malraux. C'est bien cela que cherchaient les meilleurs artistes du début du siècle. Et c'est cela qui les rendait sensibles au langage pictural de l'icône. À ce titre, le cas de Matisse, c'est assez étonnant, quand on pense au tableau, ça ne fait pas directement penser à des icônes, mais il avait compris en tant qu'artiste le langage des icônes. Et c'est aussi très important. Alors, Henri Matisse séjourne en Russie du 20 octobre au 7 novembre 1911. Il est alors âgé de 42 ans et a été invité par son principal mécène moscovite, Shchukin, c'est encore un vieux croyant, qui était jusqu'en 1914 l'homme qui possédait les tableaux les plus importants de Matisse. Exactement 25 à ce moment-là. Alors, c'est très intéressant, ces marchands vieux croyants, immensément riches, collectionnaient à la fois des icônes anciennes et des peintures modernes. Accompagné par Shchukin, le peintre français visite le Kremlin, la galerie Tretiakov et les collections d'icônes de Shchukin, Morozov et Ostraoukhov, puis des églises des vieux croyants, et ne cesse de manifester enchantement et admiration pour cet art qu'il vient de découvrir. Au dire de Shchukin, l'intensité des sensations est telle que des nuits entières, elle empêche l'artiste de dormir. Toute la presse parle du coup de foudre de Matisse pour les icônes et ses déclarations enthousiasmées font sensation. Ainsi, dans le quotidien Le Matin de Russie, Outre-Russie, du 27 au 28 octobre, deux articles sont consacrés à sa visite à Moscou. On y trouve des déclarations suivantes. Les Russes... Non. Les Russes ne s'en doutent pas du trésor artistique qu'ils possèdent. Oh, hélas, c'était vrai. Vos jeunes étudiants ont ici, chez eux, des modèles d'art incomparablement meilleurs que ceux de l'étranger. Les peintres français devraient venir étudier en Russie. L'Italie, dans ce domaine, donne moins. Matisse Dixit. Oui. Oui, oui. J'adore. Vous avez encore un peu de temps ? Oui. Notons aussi qu'au début de janvier 1917, certains journaux, comme La Parole russe ou les informations boursières à Moscou, annoncent à Moscou qu'on attend d'un jour à l'autre l'arrivée d'un groupe de peintres français, parmi lesquels Van Dongen, Picasso, Braque, Derain et Delaunay. Incités à ce voyage par les récits émerveillés de Matisse sur les icônes anciennes. Malheureusement, à cause de la guerre, ce voyage n'eut jamais lieu. Mais arrêtons-nous ici un instant pour nous demander quelles sont les causes proprement picturales de l'admiration passionnée de Matisse et avec lui de tous ceux qui sont venus à l'icône à partir de l'art moderne. Deux domaines me semblent décisifs ici. D'un côté, la représentation de l'espace et de l'autre côté, le coloris. Le développement d'un système permettant de représenter l'espace objectivement mesurable de la perception sensible et empirique fut pour les artistes de la Renaissance, comme on sait, une préoccupation majeure et constante. On sait que ces recherches ont abouti à l'élaboration de la perspective dite scientifique, appelée aussi perspective des projections coniques. Des recherches récentes ont montré que cette perspective scientifique, qui se voulait la seule vraie et objective, ne représente guère qu'un langage conventionnel ou une forme symbolique de l'espace, comme disait Panofsky, une forme symbolique de l'espace. Parmi bien d'autres, il faut même relever une importante contradiction interne, car pour atteindre cette objectivité-là, on se voyait obligé d'adopter une vue statique, monoculaire et finalement extrêmement subjective, car elle n'admet qu'un seul point de vue. Certes, le leitmotiv des recherches de la Renaissance fut l'imitation de la perception du monde empirique, et cela explique le succès énorme que cet art connut à l'époque. Mais cette imitation consistait à créer une illusion et ne pouvait donc pas aller sans une certaine, on pourrait dire presque tromperie, le trompe-l'œil. On voulait passer maître, on trompe l'œil. Or, Leonid Ouspensky nous rappelle avec force que dans l'image sacrée, l'illusion est aussi intolérable que dans la vie spirituelle. C'est bien ça. L'illusion est aussi intolérable que dans la vie spirituelle, dans l'ascèse et la prière. Nous savons que l'anthropocentrisme de la Renaissance a précipité ce repliement sur l'empirisme et s'est enthousiasmé à n'en plus finir devant les profondeurs illusionnistes projetées par ses peintres sur toile, murs et plafonds. Sur celui de la chapelle Sixtine, on en vint un jour jusqu'à percevoir Dieu le Père lui-même en train de flotter, tel un cosmonaute égaré, au-dessus de quelques bâtiments qui s'ouvrent sur un ciel qui n'est plus qu'une réalité, qui n'est plus une réalité spirituelle, mais plutôt météorologique. La représentation de l'espace dans les icônes ne suit pas les règles rigides d'un système stéréométrique préconçu, mais elle se réfère directement à l'expérience naturelle de la perception optique humaine qui est bioculaire et dynamique. Par ailleurs, cette représentation se veut aussi objective que possible, car elle n'est pas fondée sur l'objectivisation d'une seule perception et d'un seul point de vue, mais sur le savoir acquis par une somme de perceptions et de points de vue qui se retrouvent en partie dans l'image. Fondamentalement, l'icône s'exprime par... n'exprime pas, fondamentalement, l'icône n'exprime pas un point de vue, ni au sens psychologique, ni au sens optique. Elle est plutôt le recueil d'une multitude de perceptions et d'enseignements. Comme dans les dessins d'enfants, la perception, le savoir et la représentation ne sont pas dissociés, mais forment un tout organique. L'espace représenté de telle manière pourrait être nommé espace ouvert, car l'icône tente d'inclure le spectateur dans l'espace représenté et adopte pour ce faire la perspective dite inverse, que j'appellerais plutôt multicentriste et dynamique. Il s'agit en effet de l'organisation d'un espace à plusieurs points de vue et à combinaison de plusieurs points de vue dans un seul. Ainsi, la plus grande partie de l'espace représenté, si l'on veut, sa vraie profondeur ne se trouve pas derrière le plan de peinture, mais devant, là où se met le spectateur. L'icône, tout en restant une planche à surface égale et par la même bidimensionnelle, s'efforce de créer un espace semblable à celui qui se trouve sous une voûte ou la coupole d'une église ou pendant la célébration. Ceux qui y assistent cessent d'être spectateurs et deviennent membres actifs du corps liturgique. À la particularité de l'organisation de l'espace s'ajoute une autre particularité des icônes, non moins frappante, leur coloris. Il est vrai que depuis des siècles de décadence, certains ne voyaient dans les icônes anciennes que des planches noires. On se souvient du récit de Vladimir Solovyov, il a écrit un recueil qui s'appelait comme ça « Tchorne Doski », les planches noires. Il a fallu en effet un effort considérable de restaurateurs avertis pour rendre au chef-d'œuvre du passé dessous la suie, les vernis avariés et les couleurs de mauvais aloi, l'éclat sans pareil des teintes lumineuses qui ne manqua pas d'enthousiasmer, comme on a vu, jusqu'au grand maître de l'art moderne comme Matisse, Kandinsky et d'autres. Ces couleurs pures et riches, leur franchise et spontanéité sont pour moi une véritable révélation. « Nulle part je n'ai vu de pareil », avait déclaré Matisse à Moscou. Ici, une remarque s'impose. On a essayé de trouver toutes sortes d'explications, entre guillemets, naturelles, à cette richesse éblouissante du coloris, comme par exemple l'observation des couchers de soleil. Mais comment se fait-il alors qu'à d'autres époques, qui ont dû connaître les mêmes phénomènes naturels, on a pu s'éloigner tellement de ce joyeux lyrisme chromatique jusqu'à sombrer dans le formalisme morne et dességé des vieux croyances, qui est malheureusement arrivé chez eux, n'est-ce pas? Pas à tous, mais à une partie. Non, ce n'est pas tel paysage ou tel ciel ou nuages enflammés qui furent à la source de ces teintes lumineuses, mais la joie pascale, cœur de toute authentique expérience chrétienne. Ce fut une spiritualité exceptionnellement intense, vécue par les peintres eux-mêmes, qui leur permit non seulement d'entrevoir dès ici-bas une pure et joyeuse beauté qui n'est pas de ce monde, mais encore de s'emparer et de la rendre visible aux yeux de tous. Pour terminer, donnons la parole à deux théologiens, un protestant, l'autre catholique, qui représenteront ici tous ceux qui, dans leurs églises respectives, étudient et utilisent de plus en plus souvent des icônes. Il y a déjà, maintenant ça fait peut-être une vingtaine, cinquantaine d'années, il y a déjà 50 années maintenant que le pasteur Jean-Philippe Ramseyer publia à Neuchâtel, en Suisse, son livre « La parole et l'image », qui reste une des études les plus pénétrantes sur le problème de l'art sacré en Occident. D'emblée, il déclare « L'image fait partie de l'essence même du christianisme. Elle est le signe que le royaume est déjà manifesté ici-bas. » C'est le pasteur qui dit que c'est. Voici qui étonne, qui peut étonner de la part d'un membre de l'Église réformée, surtout si l'on pense aux positions plutôt iconoclastes de Calvin,